8,4% des actifs du massif des Pyrénées, cela représente une part non négligeable de l'activité économique des départements pyrénéens, de l'Atlantique à la Méditerranée. Plus spécifiquement, un large plan avenir pour le pastoralisme est coordonné par l'ACAP, l'Association des chambres d'agriculture des Pyrénées. Son président, Philippe Lacube, est l'invité de Radio Présence. Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
Quelle est la part du pastoralisme agricole des Pyrénées ?
Alors le pastoralisme donc sur les 6 départements pyrénéens, hein, c'est à peu près chaque année un milliard d'euros de produits intérieurs bruts, donc ce qui est important. Mais au-delà de la part économique, c'est une activité qui va être importante pour ce qu'elle représente sur le massif en termes d'emploi, en termes de culture aussi, la culture pyrénéenne bâtie autour de cette activité, et puis les répercussions qu'il peut y avoir sur toutes les autres activités pyrénéennes. S'il y a du tourisme dans les Pyrénées, c'est parce qu'il y a du pastoralisme qui entretient ces paysages, qui les ouvre, qui les rend merveilleux et qui en fait cette carte postale qu'aiment découvrir les randonneurs. C'est aussi vecteur de biodiversité, c'est aussi vecteur de sécurité publique, en limitant les incendies, en limitant les avalanches. Ça produit aussi des aliments, fromages ou viandes d'excellente qualité gustative ou environnementale. C'est un peu tout ça, le pastoralisme.
Est-ce que vous avez une idée du nombre de communes qui sont concernées par le pastoralisme dans
notre
région ?
Oui, on est sur l'ensemble du massif. Alors, le massif des Pyrénées, c'est 6 départements. Oui. Il y en a 3 qui sont dans l'ex-Midi-Pyrénées, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne avec la vallée du Luchon et l'Ariège. Voilà, on a à peu près un millier de communes qui sont concernées sur l'ensemble des 6 départements, si on rajoute les Pyrénées-Atlantiques et les Pyrénées-Orientales et l'Aude pour finir de couvrir le massif.
En proportion Auvin, Caprin et puis Bovin, on a plutôt une majorité d'Auvin et Caprin.
Oui, principalement des ovins. On a à peu près 700 000 brebis qui transhument sur le massif pyrénéen. On a 100 000 vaches environ. Voilà, des équins aussi, des chevaux, hein, à peu près 25 000 juments qui transhument. Voilà, c'est des effectifs importants. C'est 6 000 familles d'éleveurs concernées. 6 000 familles, c'est pas rien non plus. Et ce sont à peu près 500 emplois de bergers et vachers, c'est-à-dire ces personnes qui restent sur les estives en été pour s'occuper des troupeaux transhumants. Sachant que la spécificité du pastoralisme dans les Pyrénées par rapport à d'autres massifs montagnards, c'est un pastoralisme collectif, c'est-à-dire que c'est une gestion par commune qui fait que voilà, on est vraiment sur une approche collective d'un groupe d'agriculteurs sous forme d'association qu'on appelle un groupement pastoral ou de commission syndicale qui va gérer collectivement son espace sur la montagne. Voilà, donc c'est la spécificité du massif pyrénéen, cette gestion collective avec l'embauche de bergers et de vachers qui vont garder les troupeaux de l'ensemble des éleveurs de la commune.
Mmh. Ces exploitants transhumants sont un peu plus jeunes que la population totale. Ils ont quel âge à peu près ? Quel est leur moyen d'âge ?
Oui, alors on a un regain d'installation depuis ces 10 dernières années sur la montagne. On a un pourcentage d'agriculteurs qui est un peu plus jeune que dans les autres secteurs et surtout beaucoup plus d'installations et des installations aussi très féminines. C'est-à-dire qu'on installe beaucoup sur la montagne, malgré les problèmes de prédation, on installe sur la montagne pour diverses raisons sur lesquelles on pourra y revenir.
Oui.
Et on installe des filles et on installe aussi des gens qui ne sont pas d'origine agricole ni d'origine des territoires, des installations qu'on qualifie de hors cadre familial.
Alors, on a vu passer justement des articles dans la presse de jeunes qui s'installaient, et notamment des femmes, et qui finalement jetaient l'éponge et rendaient le tablier au bout de quelques années parce que c'était un métier trop difficile. Est-ce que vous avez ce genre de retour ?
Ouais, ça reste très marginal. Hein.
Oui.
Les gens qui renoncent au bout de quelques années, sur les installations aidées en tout cas, hein, aidées par la dotation jeune agriculteur, par tous les processus d'accompagnement à l'installation, au bout de 10 ans, on est en dessous de 5% sur les cas d'abandon, c'est-à-dire très 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 peu. On a quand même franchement une résilience et une une longévité des gens qui s'installent en agriculture en montagne qui reste très importante. On n'est pas dans les start-up hein, où je crois que c'est 75 ou 80% qui, au bout de 5 ans, n'existent plus. Les installations de jeunes agriculteurs en montagne, c'est des installations pérennes.
Mmh. Vous l'avez évoqué, Philippe Lacube, vous avez parlé de la place du pastoralisme dans la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous apporter quelques précisions sur ce point ?
Ben, le pastoralisme a maintenant ses paysages ouverts, hein, parce que quand vous allez vous promener l'été ou que vous allez skier en hiver dans nos belles montagnes, vous avez des paysages qui sont ouverts, qui ne sont pas embroussaillés. Et ça, ben, ce n'est pas par l'opération du Saint-Esprit, hein, c'est parce qu'il y a des vaches, des brebis, des chevaux qui packagent, qui maintiennent ces paysages ouverts et ces paysages remarquables. Et en maintenant ces paysages ouverts, ben, ces paysages, c'est d'abord des puits de carbone hein, qui sont reconnus, hein, et qui sont bien sûr extrêmement importants en termes environnementaux, en termes de biodiversité. Également, le fait de maintenir ces paysages ouverts ben, fait qu'on a une diversité de petites fleurs, de petits animaux ben, qui est absolument exceptionnelle et qui n'existerait pas dans un paysage qui se refermerait ou qui s'embroussaillerait, voire qui se boiserait, où la biodiversité existerait, mais serait beaucoup moins importante. Mmh. Vous avez par exemple du lagopède en haute montagne, le perdreau blanc, la perdrix des neiges, celle qui change de couleur, qui est magnifique, dont la présence est extrêmement liée à la présence des brebis en haute montagne, qui maintenant sécrète de haute montagne ouverte, sans trop de rhododendrones ni de bruyères, fait qu'on va avoir un développement du lagopède, du perdreau blanc. Donc voilà, c'est tout ça qu'amène le pastoralisme en termes de biodiversité à ces territoires.
Mmh. Philippe Lacube, l'association que vous présidez des chambres d'agriculture des Pyrénées, l'ACAP, s'est fortement impliquée dans l'élaboration d'un plan avenir pastoralisme. Que prévoit-il exactement ?
Alors, ce plan avenir pastoralisme, il est orienté autour de trois dimensions. La première, c'est l'appui économique au pastoralisme, aux investissements, parce qu'on a besoin d'appui, d'aide pour refaire des points d'eau, pour débroussailler, pour arranger une cabane pastorale. Les cabanes en montagne, c'est un outil de travail essentiel hein, pour que nos bergers et nous, éleveurs, nous vivions dans des conditions qui soient décentes. Donc ça, c'est le premier volet. C'est toute la partie d'aide publique au pastoralisme venant principalement de la politique agricole commune voilà, qui finance ça. Le deuxième point, c'est un volet sur la communication. Aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de monde qui vient en montagne et le phénomène Covid a vu une augmentation de la fréquentation, notamment des grands sites qui s'appellent Gavarnie, qui s'appellent le plateau de Baye, qui s'appellent le Tourmalet, etc. Et avec des gens qui n'ont pas les codes. Je ne leur en veux pas, ces gens qui vont essayer de faire une selfie avec une vache ou qui vont essayer de caresser un petit veau, etc. Et ces gens-là, il faut leur apprendre ce qu'est la montagne. Il faut leur apprendre qu'une vache avec son petit veau, elle est dangereuse. Il faut leur apprendre le respect. C'est quelque part ce qu'on appelle le multi-usage. Et donc, on a un devoir de communication vers ces gens pour leur expliquer comment fonctionnent ces territoires.
Et cette communication, elle se fait sous quel mode ?
Voilà, la communication, nous souhaitons la faire de plusieurs façons, par le numérique, bien sûr, hein. Quand les gens arrivent sur des espaces montagnards, qu'ils puissent avoir accès à des informations via leur téléphone, mais aussi par des présences humaines hein, sur ces grands sites, mais aussi par des prospectus, des panneaux, voilà, des vidéos aussi, hein, tout ce que la communication peut aujourd'hui nous donner comme outil pour expliquer la montagne et pour expliquer le pastoralisme. Voilà. Les vrais randonneurs, ce n'est pas un souci. Les vrais randonneurs, ils connaissent la montagne, ils connaissent les problématiques, ils savent faire. On a plutôt à informer ce nouveau public, et encore une fois, qui est le bienvenu. Hein, voilà, hein, les montagnes ont toujours été des pays qui sont ouverts hein, aux autres, mais par contre qui demandent respect par rapport aux gens qui habitent, qui y vivent et qui ont leurs pratiques.
Et aux bêtes. Et alors le dernier axe, le troisième axe de ce plan avenir pastoralisme,
le troisième axe, c'est la valorisation. C'est comment on arrive à mieux valoriser les productions locales, notamment le veau, notamment l'agneau qui est produit dans le massif pyrénéen. Vous savez qu'une ville comme Toulouse, notre métropole, consomme à 70% de la viande qui vient d'Allemagne. Quel dommage, quand on sait que dans les Pyrénées, avec toutes les races locales que nous avons, nous sommes en capacité de fournir des viandes d'excellente qualité gustative, d'excellente qualité environnementale. Et donc, c'est ce qu'on appelle la structuration de filière. Comment amener cette viande dans l'assiette du consommateur ?
Et l'agneau des Pyrénées qui a reçu une distinction lors du dernier salon de l'agriculture ?
Absolument. Là, ça fait partie justement des démarches intéressantes qui ont été bâties pour valoriser cette production qui est l'agneau des Pyrénées. Et il vaut mieux manger, vous en conviendrez, de l'agneau des Pyrénées par rapport à l'agneau néo-zélandais. Hein. J'ai rien contre lui, mais quand on traverse en paquebot le monde entier, c'est vrai que l'impact environnemental est quand même des plus négatifs, alors qu'on a des agneaux dans les Pyrénées.
Mmh. Ce travail sur le plan avenir du pastoralisme a permis de faire reconnaître l'importance de l'agriculture de montagne. Au niveau européen, vous évoquiez la PAC, la politique agricole commune. Quelles conséquences sont attendues sur cette reconnaissance au niveau européen ?
Alors, la politique agricole commune, pendant longtemps, nous avons été les parents pauvres de la PAC, la montagne. Ah oui. Il y a eu un grand tournant en 2015-2016, sous l'égide à l'époque d'un ministre qui s'appelait M. Le Foll, qui a beaucoup œuvré pour que la montagne et ses territoires, ses zones pastorales, soient enfin reconnues par la politique agricole commune comme des zones de production. Ce que nous sommes devenus, et c'est vrai que depuis 2015-2016, la précédente programmation PAC, un effort a été fait envers ces territoires de montagne pour aider ces territoires de montagne qui le méritaient bien. Ces aides continuent, bien qu'il y ait quand même, sur cette nouvelle programmation qui nous arrive, des diminutions qui seront notables, mais il n'empêche que nous avons réussi par un travail de reconnaissance à Bruxelles, où je me suis rendu et autres, à continuer à faire reconnaître ces territoires de montagne français. Et nous travaillons beaucoup entre tous les massifs français pour la reconnaissance de cette activité pastorale qui aujourd'hui est reconnue par la politique agricole commune et aidée par la politique agricole commune.
Mmh. Alors, quand on parle de pastoralisme dans les Pyrénées, on ne peut pas ne pas évoquer la présence de l'ours. Il sort de son hibernation et la question de la cohabitation avec les troupeaux revient dans l'actualité. La nouvelle députée de l'Ariège, Martine Froger, a indiqué récemment que, je la cite, « on met en place des mesures palliatives, mais ça ne suffit pas ». Pour vous, Philippe Lacube, comment assurer l'équilibre entre l'activité pastorale, le tourisme et puis évidemment la présence de l'ours dans les Pyrénées?
Alors déjà, pour resituer, moi je ne parlerai pas d'ours dans les Pyrénées, je parlerai d'ours dans le Couserans.
Oui, c'est vrai, c'est plus ciblé.
Voilà, qui est ce secteur de l'Ariège au-dessus de Saint-Girons, hein, pour ceux qui connaissent, où en fait on sont regroupés là 95% des 80 ours reconnus par l'Office français de la biodiversité sur le massif pyrénéen. On a une concentration là sur une vingtaine de communes de 70 ours, qui est absolument invivable. C'est-à-dire que pour des éleveurs, ben, c'est des gens qui sont en dépression, c'est des gens qui ne tiennent plus. C'est un territoire en souffrance absolument extraordinaire et il est difficile de maintenir une activité pastorale. Et ça aura aussi des conséquences sur le tourisme. Hein. Vous avez vu malheureusement,
oui,
cette fin de semaine, un jogger dans le Trentin
qui s'est fait attaquer par un ours.
Runner, voilà, qui s'est tué. Mmh. Et ça me crée beaucoup de soucis parce que le Trentin, c'est ce qui arrive dans le Trentin depuis le début des réintroductions, ça nous arrive 4-5 ans après.
Donc le Trentin, c'est en Italie, hein, précisons.
C'est en Italie, absolument.
Oui, oui. Donc, alors, quelles sont les solutions ?
Alors, les solutions, c'est déjà, nous avons demandé à l'État de bordurer l'effarouchement. Vous savez que l'effarouchement, le fait de faire peur à l'ours, on ne le tue pas, on lui fait peur. L'année dernière a été remis en cause, les arrêtés d'effarouchement, par les environnementalismes, et cet arrêté a été cassé par 3 fois. Donc l'État et le ministre de l'Agriculture s'est engagé à consolider juridiquement ces arrêtés d'effarouchement pour qu'ils arrêtent d'être attaqués et être annulés. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça a fait l'effarouchement ? L'effarouchement, sans tuer l'ours, ça recrée de la peur à cet animal par rapport à l'homme. Et je pense que ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, ces animaux ont compris qu'ils étaient banqués ouverts, hein, qu'il n'y avait aucun souci, qu'ils pouvaient s'attaquer aux brebis et autres sans que personne ne leur dise rien. Et à un moment donné, je pense qu'il est important de pouvoir avoir le droit de défaroucher.
C'est une forme de dressage, en fait, non ?
Ben oui, lui montrer, absolument, lui donner la leçon que, oui, si tu approches un peu trop, eh ben, c'est dangereux.
D'accord, l'effarouchement. Autre solution, autre piste ?
Nous, ce que nous demandons, c'est le droit à se protéger, que les bergers et les vachers qui le souhaitent, aucune obligation, mais puissent être armés pour, en cas d'attaque, pouvoir attaquer sur eux et dans certaines conditions, avoir le droit à se protéger, tout simplement, à protéger leur vie, parce qu'il faut vivre au contact de cet animal tout au long de l'été, avec les conséquences que ça peut avoir. et donc le droit à la protection. Et puis moi, j'aimerais bien aussi qu'on fasse une étude sur l'impact de tout ça. L'impact humain, l'impact moral, l'impact psychologique, l'impact sur les territoires dans le Couserans, avec tous ces abandons de territoire, tous ces territoires où on ne va plus, où l'embroussaillement gagne, l'impact des fameuses mesures de protection qu'on nous impose, c'est-à-dire qu'on nous impose la nuit de regrouper les brebis dans des parcs clôturés.
Et ça, c'est compliqué.
Alors, déjà, les chiens patous qui protègent, ils protègent autant de l'ours que du promeneur. Hein. Donc, on a beaucoup d'accidents avec les chiens patous qui sont de véritables dangers. Hein. Ensuite, quand vous regroupez les brebis toutes les nuits au même endroit, dans des clôtures, déjà, l'efficacité est très limitée parce que quand il fait pluie, brouillard, brume, vous ne pouvez pas le faire. Mais ensuite, vous allez regrouper les bêtes dans des périmètres très étroits. Et donc, vous allez regrouper toutes les déjections, donc vous allez concentrer les nitrates, etc., qui en termes de biodiversité n'est pas extraordinaire, et c'est évident que notre système de garde en petit lot dans la montagne permettait d'avoir une diffusion de tout ça sur des grands espaces qui était intéressante, alors que là, la concentration l'est moins. C'est tout cet impact que j'aimerais qu'on puisse étudier, alors, à la fois l'humain, la biodiversité, etc. Qu'on mesure l'impact de ces introductions.
Alors, on attend justement cette mesure, et vous nous direz, Philippe Lacube, que vous reviendrez vers nous pour nous dire justement quelles sont toutes les... quelle est cette étude pour mesurer l'impact de la présence de l'ours dans le Couserans notamment. Merci beaucoup, Philippe Lacube, président de l'Association des chambres d'agriculture des Pyrénées.
Pour conclure, le pastoralisme, c'est une activité éminemment moderne.
Voilà, merci beaucoup.
C'est tout ce que l'on attend de l'agriculture.
Merci. Merci. Au revoir, monsieur. Au revoir, Philippe Lacube.
Au revoir.